Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Que se passe-t-il dans l'œil de celui qui peint et dans l'œil de celui qui regarde? Peut-on jamais tout voir d'un tableau? Et pour l'apprécier, vaut-il mieux le voir de loin ou de près, vu d'ensemble ou de détail, immobile, en marchant ou en courant?
Il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise? Demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Bonjour Jacqueline Lichtenstein.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous avez déjà fait le tour du Louvre en courant?
Non.
Pourtant, vous l'avez déjà fait de nombreuses fois, j'imagine.
J'ai fait de nombreuses fois et j'ai souvent eu envie de le faire en glissant sur les parquets, comme, d'entendre ce bruit. C'est dans Zola qu'il y a une très belle description du bruit que font les pas sur le parquet du Louvre.
Vous venez souvent à ce micro nous parler d'histoire de l'art. Vous êtes professeur des universités, vous avez écrit récemment « Les raisons de l'art », essai sur les théories de la peinture aux éditions Gallimard. Et pour ce dernier temps de notre série sur l'œil, on va se situer du côté de l'œil de l'artiste, mais aussi de l'œil du spectateur, celui qui regarde. Car il est bien des façons de regarder un tableau. Et pour ce faire, on a choisi de parler d'un quelqu'un qui en parlait très bien, justement, et qui a sans doute appris aux historiens de l'art, enfin vous me direz, dont vous faites partie, à regarder autrement la peinture. Il s'agit de Daniel Arras, que vous avez connu, je crois.
Oui, j'ai bien connu Daniel Arras. C'est un très cher ami. On a fait partie un peu du même groupe, avec Louis Marin, Hubert Damisch, etc. Il y a eu Maurice Brock, Philippe Morel, un certain nombre, où il y avait des historiens de l'art et des philosophes, ce qui était quelque chose d'à l'époque d'assez inhabituel, parce que c'est une époque où il y avait encore malheureusement un vrai conflit entre théorie et histoire, entre une approche théorique ou philosophique de l'art, et puis une approche purement historique de l'art. Donc il y avait un vrai conflit entre les historiens de l'art et les philosophes.
À quelle époque, là? Vous parlez de quelle époque?
Quand j'ai connu Daniel, ça devait être dans les années 80 ou quelque chose comme ça. Mais le conflit est un tout petit peu antérieur. Il s'incarne dans le conflit Chastel-Francastel, c'est-à-dire École des hautes études et université. Et Daniel, par rapport à ça, en tant qu'historien de l'art, donc moi c'est la philosophie, et Daniel, en tant qu'historien de l'art, a rompu avec ça, puisque au fond il a été un traître d'une certaine manière, véritable historien de l'art, mais en même temps fréquentant les théoriciens, les philosophes et la théorie, et donc refusant ces sortes d'alternatives qu'on voulait imposer. Bon, maintenant les choses ont changé quand même.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'époque, il y avait deux façons de réfléchir sur l'art. D'un côté, penser que tout ce que l'on voit peut se ramener à une théorie abstraite, ou au contraire, se contenter d'une forme de description visuelle de ce qu'on avait devant les yeux.
Oui, d'un côté le catalogue, la description visuelle, et puis de l'autre côté, effectivement, une approche purement philosophique qui ignorait l'histoire elle-même. Donc le conflit était aussi très idéologique, comme souvent en France, gauche, droite, université, école des hautes études, université, etc. Donc ça, on est sorti de cela à ce moment-là, je veux dire, dans les séminaires auxquels on participait, Daniel, moi et puis un certain nombre. Et Daniel représente une nouvelle génération d'historiens de l'art, à la fois véritables historiens de l'art, c'est-à-dire ayant une connaissance, une culture visuelle, sachant regarder, voir, et magnifique pédagogue, en plus sachant faire partager son enthousiasme pour la peinture, et en même temps très intéressé par les approches philosophiques, même la psychanalyse, etc.
Donc. Il est né en 1944, décédé prématurément en 2003, et c'est sans doute fait connaître, alors du grand public, en tout cas d'un certain public qui dépassait les universitaires historiens de l'art, avec son livre sur le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture. On va en parler ensemble. Peut-être une manière de saisir la spécificité de son approche, c'est de partir d'une phrase du grand critique d'art Ernst Gombrich, qui lui dit « On ne voit que ce que l'on sait ». Arras dit l'inverse.
Oui, il dit l'inverse, oui, il dit l'inverse, mais en même temps, oui, il dit l'inverse, parce que regarder la peinture avec attention, c'est découvrir ce qu'on ne savait pas, justement, aussi, ou ce qu'on ne voyait pas. Mais en même temps, ce que veut dire Gombrich, c'est que on voit, enfin, c'est la distinction, je dirais, entre voir et regarder, c'est que regarder la peinture implique une attention visuelle tout à fait spécifique, qui nous fait prendre conscience qu'au fond, on ne voyait rien. Au départ, on ne voyait rien. Donc, ce que veut dire Gombrich quand il dit qu'on ne voit que ce qu'on sait, il veut dire aussi qu'on ne voit rien, enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on voit avec des œillères, qui sont les mots, les concepts. Valéry dit aussi, dans l'introduction à
Léonard
de Vinci, oui, Paul Valéry, qu'on voit avec des mots. On voit avec des mots, on voit avec des concepts, et que c'est de cela qu'il faut se désapprendre. Et donc, l'attention visuelle, le regard sur la peinture implique une attention visuelle, comme ça, qui fait qu'on apprend, en regardant, on apprend à voir ce qu'on on découvre, ce qu'on croyait savoir, mais qu'on ne savait pas, ce qu'on croyait voir, mais qu'on n'avait pas vu. Et donc, il y a tout un apprentissage de l'œil qui passe par l'attention. Cet exercice de l'attention est absolument fondamental, je crois, parce que c'est une sorte de... Je me souviens que justement, parce qu'on parlait de Daniel Arras, il disait qu'il avait un tableau qu'il adorait, enfin, qu'il... un petit peu un tableau culte pour lui, c'était le tableau de Raphaël qui se trouve au musée de Dresde, la Transfiguration. Et il disait que la première fois qu'il l'a vu, il était presque déçu, comme ça. Voilà, il s'est assis sur un banc, puis il regardait le tableau, avec les deux petits angelots en bas du tableau, comme ça. Et puis lentement, comme cette sorte d'attention, lente, il faut prendre le temps, hein. Quelque chose s'est produit lentement, quelque chose est venu du tableau vers son œil ou quelque chose de son œil est allé vers le tableau. Hein. Ça marche dans les deux sens. Et je crois que c'est aussi ce qui est merveilleux, ce que je trouve très important dans l'expérience de la peinture, enfin l'expérience du le regard du spectateur, du regard de la peinture, c'est que ça apprend une forme de temporalité tout à fait essentielle. C'est-à-dire, faut prendre le temps, faut regarder. En plus, ce qui est très important, c'est que l'œil du spectateur est libre. Il peut parcourir le tableau, il peut commencer à gauche, même si le tableau impose, notamment le tableau classique, impose un ordre de parcours au spectateur avec la perspective, les points de fuite, etc. Moi, je peux le balayer comme je veux, rien ne me contraint. Et cette sorte de liberté fait que cette sorte de beaucoup plus grande liberté qu'avec les sons, par exemple.
Ou la lecture.
Je ne supporte absolument pas la musique dans les lieux publics parce que je trouve que c'est une atteinte à ma liberté. Les images, personne ne me force à les regarder. Personne ne force quiconque à les regarder. Donc je crois que c'est cette idée d'attention. Enfin, quand Daniel dit...
Enfin, les images de tableau, parce que les tableaux. Images de publicité, par exemple, on force à les regarder.
Oui, malheureusement. Mais justement, enfin, je crois que Daniel est quelqu'un qui a notamment cette... On pourra revenir sur cette question du détail. Ouais. Une histoire du détail, c'est aussi, au fond, une histoire de l'attention visuelle.
C'est ça. Il faut du temps une certaine attention qui est portée, et c'était un des premiers à le dire, non pas simplement au tableau dans son ensemble, mais au détail. Écoutons-le, puisqu'on a la chance d'avoir sa voix, il a beaucoup parlé à la radio. Écoutons-le dans une émission réalisée par Jean-Claude Loiseau. C'était en 2003 sur France Culture.
Quand vous allez voir un tableau, vous regardez un tableau, une photo, ce que vous voudrez, vous avez certainement une vue d'ensemble, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on voit quand on voit l'ensemble? J'aimerais bien le savoir aussi. On perçoit l'ensemble, on voit l'ensemble. Mais quand on commence à regarder, eh bien, l'œil va s'attacher à certains éléments. Il va non pas découper, mais physiquement, il va isoler, mettre en relief avec une zone de flou autour des éléments qui sont des détails, mais sont plus les mêmes, ces détails-là, que les premiers. C'est ce que j'appelle les détails d'Italio, qui sont le fait de chaque regardeur ou regardant de tableau. Tout historien de l'art travaille très chèrement avec les détails. Parce qu'un détail qui ne cadre pas, qui ne colle pas avec l'ensemble du tableau, eh bien, ce détail interroge, comme on dirait aujourd'hui, je préfère l'expression de Chastel, alerte l'historien, qui doit comprendre pourquoi, par exemple, Jésus a un cordon ombilical dans son bain donné par la Vierge, d'où l'anomalie. Mais l'anomalie majeure, c'est bien sûr le cordon ombilical de Jésus dans le tableau de Lorenzo Lotto. Le détail, sa fonction est de nous susciter, de nous appeler, de nous alerter, de faire écart, de faire anomalie, et l'histoire... l'histoire iconographique, on va dire, de l'art, tente à trouver que tous les détails sont normaux. Or moi, ce qui m'intéressait, comme petit obsessionnel, c'était au contraire de dire, tiens, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, non, je veux pas dire, ah ben, extraordinaire, c'est pas normal, mais je vais chercher quelles sont les possibilités de cette anomalie. Bon, et à ce moment, s'ouvre effectivement une histoire rapprochée qui implique autant lecture de documents, peut-être même plus, que l'histoire de loin.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons du détail et de l'œil de l'artiste. Aujourd'hui, en dernier temps de cette série sur l'œil, en compagnie de la philosophe et historienne de l'art Jacqueline Lichtenstein, ce que dit Daniel Arras, c'est que le détail, c'est l'anomalie, au sens le plus noble du terme. C'est surprenant.
Oui, il attirait lui-même l'attention sur les anomalies quand il parlait des tableaux, des choses qu'on n'avait pas vues, qui n'étaient pas là pour être vu au premier regard, justement, mais qui tout d'un coup obligé à regarder l'ensemble, parce que très intéressant, c'est la distinction qu'il fait entre le détail et l'ensemble, deux formes de vision, et qui oblige ce détail, au fond, ce détail entraîne une sorte de reconfiguration de l'ensemble qui nous le fait voir différemment. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que Daniel abordait une question d'une manière tout à fait spécifique et particulière, à travers le problème du détail, il abordait une très vieille question qui hante la réflexion sur la perception picturale, la manière dont le spectateur perçoit un tableau, c'est-à-dire la question de la juste distance à l'égard du tableau. Est-ce qu'il faut voir un tableau de près? Est-ce qu'il faut voir un tableau de loin? Est-ce qu'on voit de la même manière un tableau de loin et de près? De loin, on voit l'ensemble. De près, on voit le détail. Simplement, Daniel aborde cette question d'un point de vue plus iconographique.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire le détail, par exemple, que tel ange est représenté de telle ou telle manière, etc. Alors que, dans une autre tradition, mais qui s'intéresse au même problème de la vision de près ou de loin, donc de la juste distance, Pascal dit de très belles choses là-dessus, à quelle distance? Et il dit « deviner ». C'est-à-dire, il ne répond pas à la question.
Le philosophe blesse Pascal,
oui,
c'est ça.
Pascal,
il prend cet exemple, justement,
voilà,
du tableau.
Et il dit « deviner ». Donc, il
ne
se prononce pas, c'est « deviner ». Mais par exemple, quelqu'un comme Diderot a écrit des textes magnifiques sur cette question de la distance du regard du spectateur au tableau, notamment dans ses descriptions, je pense à une description d'un tableau de Chardin, où il dit « de loin, c'est... » Alors, de loin, on voit... un bocal d'olives, des raisins, du vin, etc. Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit, disparaît. Reculez-vous, tout se reconstitue. C'est-à-dire que de loin, on voit une image, de près, on voit de la peinture. C'est-à-dire de près, les formes se dissolvent, les raisins, tout ça, ça se dissout. Et ce qu'on voit, c'est des taches. C'est de la peinture, ce qu'on retrouve aussi. Enfin, c'est quasiment un lieu commun, puisqu'on le retrouve chez Balzac, chez Huysmans, etc. Mais cette idée, au fond, que le regard du spectateur est mobile, et que soit il regarde la peinture, soit il regarde l'image. Alors, est-ce qu'il peut voir les deux en même temps? Alors, ça, c'est la thèse d'un autre philosophe qui dit qu'on peut regarder la peinture et l'image en même temps.
Qui dit ça?
Wolheim. Richard Wolheim, qui a une théorie qui reprend cette question de la perception image ou peinture, qu'est-ce qu'on regarde dans un tableau. Tout ça, ça vient de chez Wolheim, qui se réclame de la philosophie analytique. Enfin, ça vient de Wittgenstein, donc de ce que dit Wittgenstein dans les recherches logiques sur voir comme ou voir dans, etc. Et Wolheim dit, et c'est très intéressant, là, il développe toute une théorie de la double perception, où il dit que devant un tableau, il y a un phénomène d'attention visuelle qui fait que on voit à la fois ce que le tableau représente, une scène quelconque, etc., et le médium. C'est-à-dire qu'on peut voir à la fois l'image et la peinture. Simplement, l'attention peut se porter plus sur l'un que sur l'autre. Mais quand l'attention se porte plus sur l'un, à savoir sur le détail représentatif, par exemple, le reste est comme une sorte de flou, enfin c'est le mot qu'emploie Daniel, qui est là comme une sorte de fond. Et donc l'attention est quelque chose de totalement mobile, Et je dois dire que ce n'est pas vrai seulement du regard du spectateur, c'est vrai aussi du regard du peintre. Il ne faut jamais oublier qu'un peintre, il avance et il recule tout le temps devant son tableau.
Et de même que l'importance du détail n'a pas toujours été reconnue par les historiens de l'art jusqu'à une époque assez récente, de même les artistes eux-mêmes n'ont pas toujours voulu accorder la même importance à ces détails. Delacroix disait par exemple refuser de s'arrêter aux détails, de peindre chaque détail comme un portrait, ou de faire le portrait d'une main chaque fois différente. Comme si l'essentiel n'était pas dans le détail.
Et puis, vous avez tout à fait raison. Il y avait aussi l'idée qu'au fond, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être peintes précisément parce qu'elles ne sont pas faites pour être vues de près. Par exemple, dès le XVIIe siècle, on a reproché à Rubens que certaines parties de ses tableaux n'étaient pas peinte avec précision, et la réponse c'est que c'était fait pour être vu de loin. Et je dois dire que de ce point de vue-là, la perception qui est la nôtre, qui est formatée par le musée, ça je crois que c'est très important, c'est-à-dire que nous sommes habitués à regarder un tableau dans un musée, c'est-à-dire placé à une certaine distance, à une certaine hauteur et à une certaine distance, falsifie complètement le regard qu'on a sur le tableau par rapport à la manière où il a été composé à l'époque. Les tableaux de Rubens n'étaient pas faits pour être vus en face. Ils étaient faits pour être vus de très très haut et le regard placé en bas. On peut essayer de reconstituer, si vous voulez, cet espace perceptif dans les églises, par exemple, quand les tableaux sont in situ. Mais sinon, dans les musées, on a une perception muséale, je ne sais pas si le terme est correct, mais qui ne permet pas de rendre compte de quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que le peintre, quand il peint ou quand il peignait pour que le tableau soit vu d'une certaine manière. Alors après... Je veux dire, il peut être vu le spectateur a tout à fait la liberté de le peindre comme il veut. Mais un tableau qui était fait pour être au-dessus d'une porte, que le peintre ait négligé les détails, au fond, c'était pas important puisque c'était fait pour être vu au-dessus d'une porte.
C'est vrai, mais ça traduit quand même une certaine vision du monde et du rôle de l'artiste face au monde.
Complètement.
Faut-il le copier? Faut-il l'imaginer? Faut-il n'en montrer que les traits jugés essentiels?
Complètement. Mais c'est vrai qu'il y a les détails ne sont pas forcément faits pour être vus. Enfin, à l'époque, ils n'étaient pas forcément peints. Pensons par exemple aux détails de... Enfin, c'est pas des détails, c'est les scènes de la colonne Trajane. Personne ne peut jamais...
Qu'est-ce que c'est?
À Rome. Mmh. La grande colonne à Rome. C'est invisible. Je veux dire, personne ne peut monter sur... On ne peut les voir qu'en photo. Alors, c'est vrai aussi que la photographie...
Voilà, et ça, Daniel Arras,
change complètement notre regard, puisque la photographie va grossir des détails. Moi, je pense, là, c'est un débat que c'est un débat que j'ai eu plusieurs fois avec Daniel Arras. Je pense que la photographie falsifie notre regard, comme la reproduction en couleur. Je préfère, en un sens, souvent la reproduction en noir et blanc. C'est un peu snob de dire ça, mais au moins, elle ne donne pas l'illusion, la reproduction en noir et blanc, de nous restituer la matérialité des couleurs. Mais c'est vrai que...
Alors que lui pensait au contraire que la photographie nous aidait à mieux voir un tableau, car elle attirait notre attention sur les détails.
Alors là-dessus, j'étais pas forcément d'accord avec lui, même si il a évidemment raison sur un certain plan, puisque ça nous apprend à mieux voir. En même temps, ça nous fait oublier, ça introduit une sorte d'idée fausse, puisque quand on voit dans ces livres des reproductions absolument magnifiques avec des grossissements extraordinaires, le peintre les a pas peints pour qu'on les voit comme ça.
Mais il les a peints pourtant.
Oui, mais il les a pas peints pour que ce soit grossi 10 000 fois.
Mais est-ce qu'il les a pas peints pour qu'on les voit quand même, pour créer cet effet de surprise chez le spectateur qui voudrait bien passer plus de temps devant ce tableau, se perdre en contemplation et tout d'un coup voir surgir ce petit point qu'il n'avait pas remarqué.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a pas de, c'est un espace de liberté, l'espace de la perception picturale. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Enfin, moi, je disais souvent aux étudiants attention, les images sur Internet, les reproductions de tableaux sur Internet ou dans les livres. C'est pas les tableaux. Les tableaux, faut aller les voir.
Oui. Le détail ne remplace pas le tableau.
Non, les tableaux, c'est dans leur dimension réelle, dans leur cadre ou quand ils ont un cadre ou sans cadre, etc. Ce qu'on voit dans une photographie, c'est tout à fait important et intéressant pour comprendre un tableau. Ça, c'est vraiment la démarche de l'historien de l'art. Faut pas oublier que les fondateurs de l'histoire de l'art moderne, enfin de l'iconographie, gens comme Panofsky, travaillaient sur des sur des photos, sur des cartes postales. Ils regardaient, ils travaillaient pas sur des tableaux. Hein. Donc la position, je dirais que le regard de l'amateur et le regard de l'historien de l'art n'est peut-être pas tout à fait le même. Hein. L'historien de l'art a un regard. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut pas être à la fois historien de l'art et amateur, hein. Mais l'historien de l'art, effectivement, est à la recherche du détail significatif, de l'élément qui va lui permettre de comprendre le tableau mieux, etc. Alors que l'amateur est plus à la recherche d'une expérience plus globale, disons.
Comme vous l'avez dit très justement, parfois, ce n'est pas le spécialiste qui veut aller vers le détail, mais le détail qui vient à lui. Écoutez, parmi ces différents détails que liste Daniel Arras, hein, il distingue le détail pictural, du détail iconique, du détail particularé, dit-il. Un exemple justement de ce détail iconique qui lui a littéralement surgi au visage.
Il y aurait ce que j'appelle le détail iconique, c'est-à-dire le détail qui fait image et qui est en général lié au message du tableau. Alors, par exemple, une mouche. Je rappelle très bien, je crois, juste à Washington ou à New York, mais dans une salle de musée américain, où je vois de loin une Vierge à l'enfant de Crivelli, et en entrant dans la salle, ça n'est pas trop grande, c'est incroyable, il y a une mouche sur le tableau. Dans un musée américain, c'est ce qu'on disait, alors je suis allé voir, et bien sûr, à 2 mètres du tableau, j'ai vu que je m'étais fait avoir par la mouche de Crivelli, j'aurais dû le savoir. La mouche est un thème qui remonte à Giotto, etc. C'est un motif ancien de la peinture, mais je m'étais fait avoir, j'étais pris à la valeur iconique du détail de la mouche, j'ai cru que c'est une vraie mouche. Chez Crivelli, la mouche, évidemment, c'est la pourriture et c'est le mal. Et dans une Vierge à l'enfance, l'enfant regarde la mouche. Hein. C'est-à-dire qu'elle fait partie absolument du message du mal qui est présent à l'intérieur du tableau.
Les mouches d'Offenbach après la voix de Daniel Arras. Alors Jacqueline Lichtenstein, il y a voilà, les différents détails que propose Daniel Arras. Et une des particularités du détail iconique, justement, c'est celui qui fait image. C'est-à-dire qu'il y a certains détails dont le but est de se fondre tellement dans le tableau qu'on les confond avec la réalité même du tableau. C'est-à-dire que certains détails viennent abolir la distinction entre la peinture et le monde dans lequel nous vivons.
Par exemple, la mouche.
Ouais.
Oui, mais la mouche est un très bel exemple parce que c'est en même temps, ça a une signification symbolique, mais la mouche est en même temps l'expression du talent extraordinaire du peintre. Hein, donc, c'est une sorte d'exercice de virtuosité,
oui.
Comme ça, qui prouve que, enfin, où le peintre veut prouver sa maestria et sa capacité à tromper l'œil du spectateur. Alors, c'est vrai que certains détails sont là pour abolir la distinction entre le réel et la représentation. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Enfin, que ce soit très souvent le cas. Je crois qu'on peut recenser, Daniel d'ailleurs les avait recensés plus ou moins, ces détails qui sont là pour, au fond, faire illusion, comme s'ils sautaient hors du tableau et qu'ils venaient nous frapper notre regard. Dans l'ensemble, il y a les rideaux, etc. On voit bien que ce sont des rideaux peints. Dans l'ensemble, la peinture ne cherche pas vraiment à faire illusion. On raconte que la peinture cherche à tromper. Ça, c'est dans les récits. Hein. On dit les raisins de Zeuxis, ils trompaient des oiseaux.
Enfin, ceux qui veulent dénoncer l'influence néfaste de la peinture, comme Platon, par exemple, disent que c'est le but de l'art que de mimer le
Mais,
réel.
Tous les exemples qui sont pris dans les textes sur l'illusion picturale, qui concernent évidemment le regard du spectateur, la plupart du temps, les trompés sont des animaux, des servantes, des oiseaux, des gens simples, parce qu'au fond, on sait très bien, enfin, un spectateur normal placé dans des conditions standards, comme disent les philosophes analytiques, il n'est pas trompé par une représentation. Il y a un tableau qui a souvent été utilisé au XVIIe siècle, un tableau de Rembrandt représentant une servante. Alors, il y a toute une série d'histoires autour de ce tableau de Rembrandt que Roger de Pile a acheté. C'est que Rembrandt aurait mis ce tableau à sa fenêtre. Donc, c'est une servante qui est accoudée à la fenêtre. Il a mis ce tableau à la fenêtre et que les gens qui passaient devant parlaient à la servante tellement elle avait l'air... d'être réel. Donc, ils étaient entièrement trompés. J'ai vu le tableau, l'histoire est manifestement fausse. Enfin, c'est pas possible. Donc, il faut faire attention à cette idée, d'abolition de la distance entre la peinture et la réalité et de la peinture trompeuse. Si Daniel a vu ce détail qui lui a sauté aux yeux, c'est parce qu'il connaissait... Quand Daniel dit qu'on ne voit rien, c'est aussi parce qu'il a derrière lui tout un savoir.
C'est le titre d'un de ses ouvrages, voilà. On n'y voit rien.
On n'y voit rien.
On a dit que c'était en opposition à ce que dit Gombrich, on ne voit que ce qu'on sait. Voilà. Enfin, ce que vous dites va quand même dans ce sens-là. Vous dites qu'il a vu cette mouche parce qu'il savait déjà ce qu'il fallait regarder. Donc ça veut dire que le savoir aide à regarder.
Voilà. Peut-être pas parce qu'il savait ce qu'il fallait regarder, mais parce qu'il n'y a pas d'œil innocent et qu'il avait tout un savoir qui avait... former son œil. Je veux dire, l'œil est éduqué. Je veux dire, il y a une éducation de l'œil qui fait que quand il entre dans quand quelqu'un qui a vu énormément, c'est quantitatif. Le regard, il est éduqué par la quantité de tableaux que l'on voit.
C'est vrai, c'est la quantité.
Et la qualité aussi, les deux. Mais la quantité, moi je disais toujours aux étudiants, il faut voir de la peinture, voir de la peinture, voir de la peinture, voir de la peinture. Et puis à un moment, tout d'un coup, ça se décante. On fait des comparaisons, l'œil compare, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quelqu'un qui a cet œil formé, éduqué, il y a des gammes, comme pour faire de la musique, il faut faire des gammes. Je pense qu'il y a des gammes visuelles, comme ça. Et que l'œil qui est formé, éduqué, arrive à voir au premier coup d'œil des choses qu'un œil non éduqué ne voit pas.
Mais ce qui montre bien qu'on ne peut pas faire complètement l'économie d'une forme de savoir. Cette question entre le regard et la théorie ou l'intellectualisme, elle est très intéressante parce que il est vrai que certains tableaux qu'on peut regarder sans aucune connaissance ne nous parlent pas au sens premier du terme. On peut passer devant, on ne sait pas quoi regarder. Il n'y a aucune couleur, forme, expression qui nous attire. Et on peut passer à côté de ce qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Or, la connaissance du peintre, du contexte dans lequel il peint, de ce qui est représenté, peut nous permettre d'apprendre à apprécier le tableau. Comme l'opéra, par exemple, où il faut parfois un livret pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Bien sûr.
Donc on ne peut pas complètement distinguer les deux.
Non, mais c'est pour ça que, on peut critiquer sur certains plans la phrase de Gombrich, mais en même temps, elle dit quelque chose de tout à fait juste, alors qu'il peut être renforcé par une autre idée qui a été développée, par exemple, au XVIIIe siècle, et sur laquelle, moi, par ailleurs, j'ai beaucoup insisté, que ce qui apprend à regarder aussi, ce qui éclaire le regard du spectateur, ce qui approfondit le regard du spectateur, lui permet de voir ce qu'il ne voyait pas à première vue, c'est de dessiner, c'est de pratiquer. On voit avec les mains. Aussi, Valérie dit de très belles choses là-dessus. Hein. C'est qu'on voit, c'est pas la même chose de voir quelque chose et de voir en le dessinant. Hein. C'est Goethe qui disait ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas compris. Donc, on pourrait ajouter, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne l'ai pas vu vraiment.
C'est une autre version du ce qui se conçoit bien, voilà. S'énonce clairement. Ouais.
Donc là, il y a effectivement cette idée, au fond, que la pratique, le fait d'essayer de dessiner ce que l'on voit, de le reproduire, etc. C'est le comte de Caylus qui insistait beaucoup là-dessus au XVIIIe siècle en disant que pour vraiment apprécier un tableau et bien le voir, il faut, au fond, essayer de le dessiner soi-même ou le graver, ou c'est-à-dire avoir une sorte de pratique picturale. Ce qui fait que les artistes ont un regard très différent sur l'artiste spectateur, ou le spectateur artiste a un regard très différent sur la peinture du spectateur non-artiste.
Alors il y a apprendre à regarder, et puis il y a aussi apprendre à parler de ce regard, ce que vous êtes en train de faire, hein, Jacqueline Lichtenstein, et ce que beaucoup d'historiens de l'art et de philosophes ont essayé de faire. Dans un de ses textes sur Léonard de Vinci, Paul Valéry fait le constat d'une pauvreté du vocabulaire de la vue, ce qui réduit considérablement la possibilité que nous avons de communiquer non seulement l'expérience, mais aussi de réfléchir sur l'importance de l'œil dans l'appréciation esthétique. Écoutez ce texte.
La plupart des gens y voient par l'intellect bien plus souvent que par les yeux. Au lieu d'espaces colorés, ils prennent connaissance de concepts. Une forme cubique, blanchâtre, en hauteur, et trouée de reflets de vitres est immédiatement une maison. Pour eux, la maison. Idée complexe, accord de qualité abstraite. S'ils se déplacent, le mouvement des fils de fenêtres, la translation des surfaces qui défigurent continuellement leurs sensations, leur échappe, car le concept ne change pas. Ils perçoivent plutôt selon un lexique que d'après leur rétine. Ils approchent si mal les objets, ils connaissent si vaguement les plaisirs et les souffrances d'ivoire, qu'ils ont inventé les beaux sites. Ils ignorent le reste, mais là, ils se régalent d'un concept qui fourmille de mots. Ces beaux sites eux-mêmes leur sont assez fermés. Et toutes les modulations que les petits pas, la lumière, l'apesantissement du regard ménagent ne les atteignent pas. Ils ne font ni ne défont rien dans leurs sensations. Sachant horizontal le niveau des eaux tranquilles, ils méconnaissent que la mer est debout au fond de la vue. Si le bout d'un nez, un éclat d'épaule, deux doigts trempent au hasard dans un coup de lumière qui les isole, eux ne se font jamais à n'y voir qu'un bijou neuf, enrichissant leur vision. Ce bijou est un fragment d'une personne qui seule existe, leur est connue. Et comme ils rejettent à rien ce qui manque d'une appellation, le nombre de leurs impressions se trouve strictement fini d'avance.
De même que Daniel Arras invente un vocabulaire pour parler du détail et propose une typologie du détail, on l'a vu, un détail iconique, détail détaglio, les différentes façons d'appréhender le rôle et la façon qu'a ce détail d'apparaître. Valérie, ici, Paul Valéry, dans son introduction à la méthode de Léonard de Vinci, pointe cette tendance que nous pouvons avoir à inventer un concept, ici les beaux sites, en deux mots, concept qui, dit-il, fourmille de mots, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de produire une précision de la pensée, va engendrer l'inverse et nous décoller encore plus de la réalité que l'on tente de saisir par la pensée. Jacqueline Lichtenstein.
Oui, Valérie, dans la plupart des textes qu'il a consacrés à la peinture, celui sur Degas, mais il a écrit aussi sur Berthe Morisot, etc., insiste là-dessus, c'est-à-dire sur la difficulté de décrire quelque chose qui relève de l'impression visuelle, de la sensation visuelle, sans passer par les cadres préétablis, prédonnés des concepts, c'est-à-dire sans plaquer sur ce que l'on voit les beaux sites, c'est-à-dire qu'au lieu de voir la mer comme ça et d'essayer de la décrire, on voit un beau site et tout de suite on perçoit cela comme un beau site. Voilà. Ce qui fait que alors il y a une dialectique très compliquée et que Valérie décrit magnifiquement bien entre voir et savoir, là, enfin entre voir et parler, entre les mots dont les mots qui sont des obstacles, parce que les mots, les concepts qui fourmillent de mots sont des obstacles à la perception, à la vision. Sont des obstacles pour saisir la sensation que procure le tableau. Mais en même temps, les mots peuvent nous aider aussi à mieux voir et à mieux regarder et à mieux percevoir. Donc, vous savez, c'est Francis Ponge qui est dans un très beau texte, j'essaie de me souvenir, je crois que c'est sur Fautrier, je ne suis pas sûre que ce soit sur Fautrier, mais où il dit « Y a-t-il des mots pour la peinture ?» Et il dit, il y a des mots pour tout, alors pourquoi il n'y aurait pas des mots pour la peinture? Et en même temps, il dit, on n'en sait rien, de toute façon, ils sont toujours forcément inadéquats et que l'écrivain, il doit travailler dans cette sorte d'inadéquation.
Mais ça, c'est vrai pour tout. L'écrivain est celui qui cherche à mettre des mots.
Simplement là, c'est vrai pour tout, sauf que dans la peinture nous confronte à un problème tout à fait particulier, enfin particulier, plus que particulier d'ailleurs, qui est... Comment est-ce que les mots peuvent rendre compte de quelque chose qui est de l'ordre de la perception, hein, et d'une perception qui est élaborée et d'une perception qui est construite, parce qu'un tableau c'est construit. Je veux dire, c'est pas un paysage naturel, c'est quelque chose qui a été construit, élaboré pour qu'il soit vu d'une certaine manière, même si on ne le voit pas de cette manière-là. Et que c'est vrai qu'il y a des descriptions Il y a des mots qui fourmillent de concepts, il y a des concepts qui fourmillent de mots qui sont des obstacles pour la perception, et inversement, il y a des descriptions qui jettent une lumière sur les tableaux et qui nous les font voir de manière radicalement nouvelle. Je pense par exemple à certaines descriptions, des grands critiques d'art, de Baudelaire, de Huysmans. Enfin, quand Huysmans décrit certains tableaux, il nous les fait voir comme on ne les avait jamais vus avant de lire le texte de Huysmans. Et donc là, il y a effectivement, je crois, un rapport entre le langage et le regard qui est extrêmement complexe, qui fait que le regard, effectivement, est un acte silencieux, mais qui est nourri d'un savoir et de mots, et d'un savoir qui doivent, se libérer des habitudes, linguistiques, des savoirs préétablis. C'est-à-dire que la peinture, au fond, ce qu'elle doit nous apprendre aussi, c'est à nous défaire de nos habitudes. Habitudes perceptives.
Ça veut dire, si on vous suit jusqu'au bout, Jacqueline Lichtenstein, et je m'adresse à la philosophe que vous êtes aussi, c'est que ça rend quasiment impossible toute forme de philosophie de l'art, par exemple. Un discours déjà construit qui fonctionne par concept qu'on essaierait d'appliquer à une réalité qui, elle, n'est pas conceptuelle.
Impossible, je dirais malheureusement
périlleuse.
Non, parce qu'on n'arrête pas de le faire. Mais,
vous semblez le regretter.
Mais je trouve ça, pour moi, c'est faux, bien sûr.
Philosophie de l'art, ça veut rien dire.
Ouais.
Quand on voit, il y a pas mal de philosophes qui ont quand même pensé, essayé de réfléchir sur les tableaux, ça n'est jamais convaincant.
Pour moi, c'est rarement convaincant. Autant que c'est le philosophe qui essaye de réfléchir sur la sensation, sur la perception.
Mais on parlait de Merleau-Ponty, sur Cézanne dans L'œil et l'esprit lundi dernier, qui fait l'effort de penser avec le tableau et non pas de plaquer un concept sur
réalité. Donc il peut y avoir évidemment des... Mais il n'a pas une philosophie de l'art, Merleau-Ponty. Je veux dire, il a une philosophie de la perception et il essaye de penser, comme vous le dites, avec le tableau. Mais élaborer une théorie philosophique de l'art me semble, alors pour le moins, extrêmement périlleux.
Comme chez Hegel, l'esthétique de Hegel qui, par exemple, se tient loin des tableaux.
Ouais. Quoi que vous preniez un mauvais exemple, là, je trouve, parce que Hegel est absolument retors de ce point de vue-là, parce qu'il y a un cannibalisme philosophique énorme chez Hegel, enfin dans son esthétique, mais en même temps, il dit des choses qui parfois tombent tellement justes sur la peinture hollandaise, sur la couleur, ou même sur l'art égyptien, que ça aide à mieux regarder. Donc je ne ferai pas non plus d'exclusion très très violente, mais c'est vrai que en général je me méfie beaucoup des discours philosophiques sur l'art, et je dirais que, enfin, pour ce qui me concerne, c'est la littérature, ce sont les écrivains et les historiens de l'art qui m'ont appris à regarder, c'est pas les philosophes. Les philosophes m'ont appris autre chose. Je veux dire, la philosophie m'a appris beaucoup de choses.
Quand Heidegger décrit les souliers de Van Gogh...
C'est entièrement faux. Je suis absolument hostile à ce texte.
Ah, faux, d'accord.
Ah, oui. Non seulement faux,
donc c'est dans Chemin qui ne mène nulle part.
Ah oui, non, mais c'est
Heidegger,
un texte non seulement qui est faux...
Parle de la description de ce tableau, mais rappelons-le quand même, le tableau de c'est les souliers.
Les souliers de
Van Gogh, mais il parle aussi des sabots des paysans qui ont été représentés.
Écoutez,
également.
Il y a eu une grande querelle avec Shapiro à propos de ce texte. Shapiro, grand historien de l'art américain. Il y a eu un échange et Shapiro a posé à Heidegger la question, c'est une querelle très drôle d'ailleurs, enfin, pour un lecteur. Shapiro a écrit à Heidegger, dit à professeur Heidegger, de quel tableau vous parlez ? Et Heidegger lui a répondu, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Ouais. Ça dit tout, cette réponse dit tout. Et alors Shapiro a dit, oui, mais c'est embêtant parce que ce que vous dites, ça vaut, il y a 4 tableaux qui pourraient rentrer dans votre description. Et Heidegger, le problème c'est qu'Heidegger, il parle d'autre chose. C'est-à-dire, très souvent, quand les philosophes parlent de la peinture, ils parlent d'autre chose. Donc, il faut prendre ce qu'ils disent, non pas comme un discours sur la peinture, mais comme un discours sur autre chose. Ce qui, dans le cas d'Heidegger, c'est pas le cas quand il parle de la poésie, c'est vraiment quand il parle de la peinture, à mon avis. Ah non, pour moi, c'est une de mes têtes de turc, le texte de Heidegger sur les chaussures de Van Gogh.
Les bons et vrais dessinateurs dessinent d'après l'image écrite dans leur cerveau, et non d'après la nature. Il s'établit alors un duel entre la volonté de tout voir, de ne rien oublier, et la faculté de la mémoire qui a pris l'habitude d'absorber vivement la couleur générale et la silhouette, l'arabesque du contour. Un artiste ayant le sentiment parfait de la forme, mais accoutumé à exercer surtout sa mémoire et son imagination, se trouve alors comme assailli par une émeute de détails, qui tous demandent justice, avec la furie d'une foule amoureuse d'égalité absolue. Toute justice se trouve forcément violée, toute harmonie détruite, sacrifiée. Mainte trivialité devient énorme, mainte petitesse usurpatrice. Plus l'artiste se penche avec impartialité vers le détail, plus l'anarchie augmente. Qu'il soit myope ou presbyte, toute hiérarchie et toute subordination disparaissent. C'est un accident qui se présente souvent dans les œuvres d'un de nos peintres les plus en vogue, dont les défauts d'ailleurs sont si bien appropriés aux défauts de la foule qu'ils ont singulièrement servi sa popularité. Bien heureusement, l'histoire de l'art et de la pensée n'a pas attendu Daniel Arras pour proposer une réflexion sur le détail. Le texte que je viens de lire, Jacqueline Lichtenstein, peut-être l'avez-vous reconnu, l'auteur de cette émeute des détails, c'est Charles Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne, qui décrit extrêmement bien justement comment les détails, en ce site particulier, on n'a pas abordé ce point, qu'ils abolissent toute forme de hiérarchie. Mmh. Faire attention aux détails, ça veut dire aussi, ce que vous disiez un peu avec les tableaux de Rubens, qu'on ne pouvait regarder que d'un point de vue, changer complètement la perspective, il faut bien prononcer ce terme. Et qui dit changement de perspective, dit changement de hiérarchie, de normes, et du coup une espèce d'océan dans lequel on peut se mouvoir.
Et dans lequel on peut se perdre, c'est un texte magnifique, là, que le texte de Baudelaire. C'est vrai, c'est tout d'un coup la perspective est abolie, c'est-à-dire que ce que je disais au début, c'est-à-dire que le peintre, en tout cas le peintre classique, il veut construire le regard du spectateur, mais le spectateur, selon le point de fuite, point de vue, etc., mais le spectateur, en étant attentif aux détails, tout d'un coup détruit cette perspective et il regarde le tableau d'une manière qui n'était pas celle que le peintre, au fond, avait construit ou avait prévu pour qu'il le regarde. Donc, abolition, effectivement, de ces hiérarchies, de cette perspective. Et on se perd, ça, j'aime beaucoup cette idée qu'on se perd dans cette foule, dans cet océan de détails. Alors, dans le cas de Baudelaire, c'est intéressant, parce que quelqu'un qui a été fasciné par la foule.
Ouais. Hein,
et donc là, on retrouve une thématique très chère à Baudelaire. Ce que c'est très beau aussi dans le texte, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'invocation à la mémoire. Hein. Le travail de la mémoire. On regarde, on voit ce qu'on sait, on regarde avec le savoir, avec les mots, etc. Mais on regarde aussi avec sa mémoire. Hein. Et comme de la même manière que le peintre dessine aussi avec sa mémoire visuelle. C'est quand un peintre regarde un paysage, il le regarde avec une mémoire visuelle. Hein, qui contient d'abord toute l'histoire de la peinture. Hein. Et quand un spectateur regarde, c'est pour ça que le regard du spectateur n'est pas le même selon que son œil a été formé ou pas, éduqué ou pas. C'est pour ça que je déplore tellement qu'il y ait si peu d'éducation visuelle à l'école.
Enfin, il n'y en a pas du tout.
C'est absolument scandaleux, bien sûr. Il n'y en a pas du tout. Mais c'est vrai que quand quelqu'un qui a une éducation visuelle, une formation visuelle, parce qu'il a vu beaucoup de choses, quand il regarde un tableau, il le regarde avec cette sorte de mémoire, comme ça, qui est dans son œil et qui habite son œil. C'est Gombrich, je crois, qui employait l'expression de culture visuelle, que je trouve pas assez forte. C'est vraiment l'idée d'une sorte de mémoire visuelle. Et le rôle de la mémoire, je trouve qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est joue un rôle absolument fondamental dans le regard, dans la perception et dans l'acte de peindre aussi. Faut jamais oublier que quand un peintre peint, s'il se peint d'après modèle, il ne peut pas regarder le modèle et peindre en même temps. C'est-à-dire que du point de vue, disons,
il y a une dissociation au niveau de l'œil.
Il y a une dissociation. Il y a une mémoire qui peut durer.
Il y a l'œil qui observe et l'œil peut-être qui imagine pour reproduire.
Voilà, et qui reproduit. Donc là, je crois que la mémoire est tout à fait essentielle. Alors, juste un mot par rapport aux détails. Alors, à l'époque où Baudelaire écrit, il ne faut pas oublier non plus qu'on critiquait beaucoup, on se méfiait beaucoup. C'est dans les grands combats de l'art moderne. On a beaucoup critiqué les tableaux ou les peintres qui étaient obsédés par le détail, genre le bouton de guêtre, Meissonnier, etc., c'est-à-dire les peintres qui voulaient peindre tous les détails de l'herbe ou tous les poils du chat ou tous les brins d'herbe ou tous les boutons de guêtre ou tu vois, ce qu'on a appelé plus tard les peintres pompiers, etc. Alors c'est vrai qu'il y a une réaction contre ça, hein, chez les peintres modernes, qui était justement de peindre ce que l'on voit comme une sorte de vision d'ensemble, le spectateur va voir, et non pas de peindre, il ne s'agit pas chez Manet de peindre chaque poil du chat, mais de peindre le chat, tel qu'enfin, de peindre un chat pour qu'on puisse percevoir cette tache noire. Hein. Et donc là, il y a une vraie critique de la peinture du détail à cette époque-là.
Est-ce que vous pensez que plus la peinture va vers une forme d'abstraction dans l'histoire de l'art, plus elle s'éloigne du détail ? Ou est-ce qu'il y a des détails non réalistes aussi ?
Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut... Disons qu'il y a... Il y a une forme d'abstraction qui s'éloigne complètement du détail. Si on pense que le détail est représentatif, qui s'éloigne en tout cas de ce que Daniel Arras appelle le détail iconique. Oui, je ne sais pas si on peut généraliser pour dire toute forme, parler de la peinture abstraite en général, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'abstraction qui propose une vision d'ensemble. Et surtout, alors, puisqu'on a pas mal parlé de cette vision de rapprochée ou distante, il y a tout un courant de la peinture, des formes d'abstraction, qui abolissent cette distinction entre deux formes de vision du spectateur, puisque ce que le spectateur voit de loin, c'est exactement la même chose que ce qu'il voit de près, c'est de la peinture. Quand vous voyez un tableau de Rothko, ou quand vous voyez, un tableau abstrait de l'école américaine, en fait, il n'y a plus du tout cette idée de, vous voyez, de la matérialité picturale.
Oui, mais de près, on peut voir la patte de la peinture,
vous voyez la patte de la peinture.
La texture
c'est ce
de la peinture.
Ce qui fait que le tableau, on sera jamais...
Donc on retrouve les détails, c'est ça.
Voilà. Et puis, c'est ce qui fait aussi qu'un tableau ne pourra jamais être remplacé par une image sur un ordinateur.
Parce qu'il nous manque le relief, la texture de la peinture.
Oui, la texture, absolument. Même s'il paraît que maintenant, on arrive même à reconstituer ça, mais bon.
On va reprendre encore un cas particulier. On avait commencé avec Daniel Arras, on va terminer avec lui. Un exemple de tableau que lui a observé, c'est la chambre des époux de Mantegna.
La chambre des époux, hein, la caméra des sposi, hein, une de mes pièces préférées dans l'architecture italienne de la fin du XVe siècle, décorée par Mantegna, donc dans le palais ducal de Mantoue. Eh bien, cette chambre des époux, il y a 9 putti, c'est-à-dire 9 angelots, mais à force de regarder comme ça, le regard flottant, j'ai vu qu'en fait, il n'y en avait pas 9, il y en avait 10. Il y en avait un dixième putto, mais ce putto, on ne voyait que sa main qui passait à travers la balustrade, et une main de bébé passant sur une balustrade, elle n'est pas vraiment faite pour être vue, mais une fois qu'on l'a vue, elle est là, il n'y a rien à faire. Et cette main, juste la petite main qui passait, tenait une petite baguette. Et cette baguette, eh bien, elle arrivait à un point très précis de la fresque, et il se trouve que ce point correspondait à une diagonale essentielle de toute la salle, puisque la moitié de la salle est peinte avec des tentures découvertes, l'autre moitié avec des tentures abaissées, la baguette du putto invisible indiquait la diagonale séparant le caché du non-caché, du dévoilé. Que ce soit par la main d'un deuxième putto caché, que soit indiqué dans le fond le secret du voilé et dévoilé, est évidemment pensé par Mantegna. Ce détail-là, je veux dire, quand je l'ai vu, hein, ça a été un grand bonheur.
Ça a été un grand bonheur, et là, Daniel Arras convoque des termes, pour le coup, lexicaux qu'on n'a pas encore entendus, celui de secret, voilé, dévoilé, comme si le jeu de l'artiste pouvait être intentionnel et essayer d'occulter une partie de la réalité au spectateur.
Oui, oui, et ça je crois que c'est très important, d'où le plaisir aussi du spectateur et celui de Daniel Arras, qui savait le communiquer à ses auditeurs et à ses lecteurs, qui est au fond le plaisir de découvrir, enfin une sorte de découverte policière, zut, je n'avais pas vu.
C'est policier.
Voilà. Je n'avais pas vu qu'il y a cette petite main et qu'appartient à cette main. Tout d'un coup, au fond, elle n'est pas là par hasard. Ça a l'air tout à fait secondaire, c'est un petit détail. Et tout d'un coup, je m'aperçois que ça correspond avec la construction de l'espace architectural, du plafond, etc. Et voilà, et donc que c'était intentionnel.
Ça, oui, parce que la chambre des époux, c'est toute une pièce.
Voilà, c'est toute une pièce. Avec le plafond. Et l'idée, au fond, que le détail est intentionnel. Et donc, de comprendre l'intention qu'il y a motiver ce détail, je sais pas, ce détail qui est à détail de détail. Là, c'est même pas un poteau en entier, c'est une main,
etc. Plutôt, c'est un petit ange, hein, voilà, l'angelot de la fresque.
Ça provoque un plaisir, une jouissance absolument énorme chez le spectateur qui, effectivement, dont le regard devient une sorte de regard un peu à la Sherlock Holmes, qui découvre... et non seulement qui voit ce qu'il n'avait pas vu, mais qui, à partir de cette découverte, voit autrement ce qu'il avait vu. Parce que c'est ce que dit Daniel aussi. Mmh. C'est qu'à partir de ce détail, tout à l'heure on disait que le détail détruit les perspectives, les hiérarchies, mais il permet de voir d'autres formes de perspectives. Hein, et donc à partir de ce détail qu'on n'avait pas vu, on voit autrement ce que l'on avait vu. Regardons un tableau, mais ça vaut à partir d'une tache noire, d'une petite tache noire. Cette petite tache noire, qui peut paraître tout à fait secondaire, va nous amener à regarder l'ensemble du tableau de manière totalement différente.
Daniel Arras prend l'exemple aussi du tableau de Messine, où il découvre un jour qu'il y a un œil enfoui dans le nombril de Saint-Sébastien. Mmh. Et là aussi, c'est encore une espèce d'indice. Il parle, il emploie ce terme-là. Oui, oui. On n'est pas loin du roman policier. Vous avez employé ce terme-là.
Oui, c'est la
même enquête qui a.
Oui, il y a un côté enquête. Mais ça, c'est effectivement, je dirais, la jouissance et le plaisir de l'historien de l'art, et que l'historien de l'art, c'est le côté enquêteur, effectivement. Qui, moi, m'a toujours beaucoup séduit. Enfin, c'est en tant que philosophe, on n'a pas cette sorte de jouissance comme ça, qui est la jouissance de l'enquêteur qu'a l'historien de l'art. Moi, je me souviens quand Damisch, un jour, a dit que...
Hubert Damisch,
que devant tel tableau italien représentant une cité idéale, là, à l'endroit de la porte, il devait y avoir un trou. Et il l'a fait percer, et il y avait un trou. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre d'un roman polyanthrope. Tout le monde était là absolument, haletant, disant « Mon Dieu, il va détruire la peinture », etc. Et pas du tout, il avait raison.
Merci d'être venu nous transmettre votre goût de cet art policier qu'est l'histoire de l'art et la philosophie, Jacqueline Lichtenstein. Je renvoie à votre ouvrage « Les raisons de l'art », essai sur les théories de la peinture chez Gallimard. Et de Daniel Arras, chers auditeurs, lisez Le Détail pour une histoire rapprochée de la peinture. Aux éditions Flammarion, on trouve des reproductions d'œuvres et les textes de Daniel Arras. Et puis aussi, beaucoup plus court, chez De Noël, On n'y voit rien, description, Daniel Arras.
C'est l'été énervé, effondré, j'en ai ma claque sur ma bouche, se pose une lave-la qui prend la pose sur le velours de mes lèvres roses. Va falloir que je fasse quelque chose. Oui, mais quoi?
France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même,
incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous parlez d'une disparition qui vous a touchée, qui n'est pas celle d'un philosophe.
Non, c'est la disparition d'Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. Mort à l'âge de 91 ans dimanche dernier, sa disparition a endeuillé la Suède. Il faut dire que, comme le rappellent les hommages qui lui ont été rendus, il avait placé la Suède sur la carte du monde. Reconnu à cette échelle planétaire, au-delà des frontières, des âges et des classes, c'est pourtant à l'intérieur de chaque foyer qu'il avait réussi à s'introduire. Ingvar Kamprad, c'était ce paradoxe fait meuble, le recentrement sur soi, sur son chez-soi, mais à l'échelle du monde.
Tous les jours, c'est la même cadence. Métro, boulot, sous l'eau, l'autre bout de la vie commence, là où s'arrête la vie de bureau. On tourne la clé, on passe le pas, pour se retrouver, enfin, chez soi. Où vivent des monstres pas toujours sages, place à la vie, à tous les âges, et place à celle des voisins, à Beethoven ou à Chopin. De la place aux nouveaux amis, à ceux qui sont là pour la vie. Et place à ceux qu'on aime du bout du doigt, à ceux qui nous brisent le cœur parfois.
Ce clip qui promeut IKEA en est un parmi d'autres publicités, mais il dit bien en 1 minute 30, on écoutera la suite après Adèle. L'ambition totale et paradoxale du géant du meuble, être chez soi, avec soi ou avec d'autres, y accomplir tous les gestes les plus fous comme les plus quotidiens, y rassembler toutes ses affaires, les choses les plus banales ou même les questionnements les plus abstraits, le pari réussi était bien de rassembler et de réunir en un espace pourtant étroit et limité tout son monde et tout le monde. On dirait alors une mythologie à la Barthes, et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là qu'est sorti en octobre dernier aux éditions Robert Laffont, dans la collection Nouvelle Mythologie, cet essai de Samuel Doux, intitulé « Désir d'IKEA, le bonheur en pièces détachées ». Et c'est alors qu'apparaît un autre paradoxe d'IKEA, créer un monde à l'échelle intérieure d'une maison, d'un appartement ou d'une pièce à partir de pièces éparses, de pièces détachées, autrement dit, créer un monde en kit. Voilà donc ce qui se passe avec IKEA. Notre monde est ramené à l'état de kit, détachable, limité, réductible. Il est décomposé en une somme d'états, d'esprits, de moments de vie et de gestes à vivre.
Place à un geste de jeunesse et place au geste de tendresse. Place au chemin à parcourir, au plan qui dessine l'avenir. Place aux nouvelles aventures, à ces bonnes nuits que l'on murmure. Place aux heures de méditation, être ou ne pas être dans le salon. Place à ce qui nous rend plus fort, encore plus fort, meilleur encore. Place à l'amour, au corps à corps. Place aux souvenirs qui vivent encore. Place à tous les secrets répétés et à ceux qui sont bien gardés.
Chut. On dirait du Abdel Malik, Géraldine.
Il faudrait que je vérifie. En tout cas, c'est une pub IKEA, IKEA France. Je vérifierai. On a bien entendu, en tout cas, ces mots. Chemin à parcourir. Plan qui dessine l'avenir. Nouvelles aventures. Amour, souvenirs, secrets. Ou encore mon préféré, un petit clin d'œil à Shakespeare. Être ou ne pas être dans le salon? C'est vrai que c'est une bonne question. Voici le mythe IKEA, sa marque laissée et omniprésente dans nos intérieurs. Créer un monde infini dans un espace réduit, se créer un monde continu à partir de pièces et de gestes détachés. Alors comment comprendre cela? Comment comprendre cette idée d'une vie, d'un avenir et de souvenirs, de partage avec autrui, moi aussi je fais des rimes, qui se coupe et se découpe sans continuité, commence et s'ancre dans un repli sur soi? Eh bien, comme le souligne Samuel Doux, citant l'intention d'IKEA expliquée sur son site, il s'agit d'améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'intention humaniste, revendiquée et révélatrice, IKEA, c'est plus que des meubles, c'est une manière de meubler et d'organiser sa vie. Au point que l'on puisse se demander jusqu'où peut-on modeler, façonner et organiser notre vie et notre esprit à l'image d'une pièce à vivre. Notre esprit aurait-il déjà tout d'une maison ou d'un appartement, d'un chez-soi que l'on aménage?
On peut écouter encore un extrait, Géraldine?
C'est parti.
Place à toutes ces choses qui font tout, qui font que la vie commence chez vous.
Alors on peut critiquer IKEA, cette uniformisation des intérieurs, la mécanisation des objets, la marchandisation du bonheur, les valeurs humanistes en cache d'une fortune colossale, ou le passé nazi de son fondateur, cela a été rappelé à plusieurs reprises dans les nécrologies d'Ingvar Kamprad. Ce qui reste encore intéressant, c'est cette valorisation du chez-soi comme d'un pour-soi. Mona Chollet, dans un essai génial paru aux éditions La Découverte, avait fait de ce chez-soi un lieu de repli, certes, mais nécessaire. Un lieu de pause dans un flux continu d'occupation, un lieu où chacun se déploie tout en se repliant. Bref, on retrouve ici un peu l'idée du kit.
Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir cette publicité d'IKEA que je ne connaissais pas. Alors que les choses soient claires, je tiens la musique d'Abdel Malik pour être comme étant infiniment de meilleure qualité que ce clip IKEA, mais j'avoue que c'est une expérience assez étonnante.
Ce clip est néanmoins très dansant.
Oui, ça c'est vrai, on pourra essayer la prochaine fois qu'on fait une émission de soir. Bref, le livre en question de Samuel Doux.
De Samuel Doux, c'est Désir d'IKEA, le bonheur en pièces détachées, c'est paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Nouvelle Mythologie. Et puisque j'en ai parlé à la fin, le livre de Mona Chollet, Chez Soi, une odyssée de l'espace domestique qui est disponible aux éditions La Découverte en poche.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Maude Markiewicz, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Julien Calvas qui est à la prise de son aujourd'hui, Noah Morgenstern à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. J'aurai le grand plaisir de recevoir l'historien Georges Vigarello qui viendra vous parler de son corps redressé. L'histoire du corps redressé, vous verrez, c'est passionnant. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur le compte Facebook et le compte Twitter des Chemins de la philo où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.